Passe le temps, coulent les années, mois, semaines, voire secondes, et c'est comme ça que les grains du sablier ont compté 12 ans. 12 années se sont écoulées, et la potière, qui était fière comme une mère, avait les yeux sur sa fille, fragile comme l'argile, sur cette petite Marionde, aux yeux bleus comme la mer, qui grandissait à travers le monde. Et sans savoir pourquoi, la potière est allée chercher la deuxième part d'eau pure qui était restée dans la gourde. Elle a versé dans un verre. Elle a appelé sa fille. C'est la première fois que Marionde voyait une eau pure, non sale, non croupie, non pourrie. La potière a dit, « Marionde, quand tu bois l'eau, pense à la source. » La première gorgée était parfumée comme du miel. La deuxième gorgée, Marionde sentit des étincelles se former. La troisième gorgée, son âme s'est animée, s'est élevée, et elle était loin de se douter qu'à chaque gorgée qu'elle prenait, au château, la source avait repris activité. Le roi Léon était sur le bout de son balcon. Il voyait les fidèles reculer parce que la source avait commencé à déborder de l'enceinte sacrée. Au plus fort de la place forte, en plein milieu du château, il y avait une inondation. Le conseiller avait beau battre de l'éventail, le roi Léon était sur le bord de la commotion. Et puis il faisait chaud, mais chaud! C'est pas peu dire, ça lui donnait froid dans le dos. C'est alors que le conseiller a poussé un cri de ralliement. Il y a eu une rencontre exceptionnelle dans la place royale. Léon était atterré. Le conseiller disait à la garde rapprochée, « Vous allez parcourir le royaume, traîner de l'oreille, écornifler. Vous allez me rapporter les candidatons, les oui-dire. Les j'étais pas là, mais j'ai entendu parler. Vous savez, messire, vous allez me rapporter toutes les rumeurs. Ça n'a pas de patte. » Mais ça court vite. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le royaume. Et puis la garde rapprochée s'est éloignée. Au bidonville, la potière eut comme un frisson de prémonition. Elle a regardé dans le bleu des yeux de sa fille en disant, « Marionde, vite, nous sommes en danger. Prends ton bâton. Nous partons. » Au loin, on voyait la poussière des cavaliers. On voyait les reflets du soleil sur le glaive des soldats, dans la grande chevauchée qui traversait le désert en direction du bidonville. Les deux femmes ont juste eu le temps de se dissimuler sur leurs capuchons. Elles ont pris leur bâton de marche et puis elles ont piqué dans la direction de l'enfer. Elles ont piqué en plein désert. Elles ont monté des vallons, descendu des vallées. Elles ont traversé des plateaux de la mort craquelés, marché pendant des heures et des heures, sans arrêt, sous le soleil qui frappe, sous le soleil qui boit, sous le soleil qui aspire. Puis la vieille femme sentait sa gorge se serrer comme un feu de forge. « Marionde, ta mère va se reposer quelques instants. « Marche, ma belle, mets de la distance entre nous et les soldats. Marche, va-t'en, cours, monte, va plus loin que l'horizon, deviens un point de fuite, je t'en supplie. Je ne peux plus avancer, je vais rester ici. » Mais Marionde s'est retournée vers sa mère. Puis la potière s'est écroulée devant elle à ses pieds. Puis elle l'entendait suffoquer, râler. Puis tout ce qu'elle aurait espéré, ça aurait été de l'empoigner, de la mettre sur son épaule. Marionde rêvait de la ramener, de la coucher dans son lit, de s'occuper de sa mère qui était en train de s'éteindre. Puis elle a déplanté son bâton pour s'approcher, question de la réconforter, pour la cajoler. Et où le bâton de Marionde était planté, choup, il y eut une perle d'eau qui est sortie de nulle part. Un petit diamant scintillant qui brillait sous le soleil. Puis la potière, qui était convaincue d'avoir la berlue, que la folie s'était emparée de son esprit, lui disait, « Marionde, pour ta mère, ta vieille mère, celle qui meurt en ce moment, pique ton bâton, s'il te plaît. » Puis la petite s'est exécutée, choups, puis une deuxième perle, un brillant scintillant diamant qui est sorti, puis pique pour ton vieux père défunt, puis pique pour toute la population, pour le bidonville dans son entier. Puis à chaque fois que Marie-Onde piquait et repiquait, c'est comme si elle perçait une veine du désert. Le bleu s'est fait dans les sablons jaunes. Un petit lac a pris naissance, puis le lac s'est donné un élan, puis on a vu naître un ruisseau qui s'est étiré au loin comme un fil d'argent. Ben, le bâton de Marie-Onde qu'elle tenait entre les mains, sec depuis des décennies, s'est mis à briller, à vibrer, à donner des coups, puis à faire des racines, à s'enfeuiller, s'enraciner, s'embrancher, puis Marie-Onde l'a planté dans le ventre du désert, puis le bâton sec de marche a poussé comme un arbre. Regarde, Marie-Onde. De l'ombre. De l'ombre. Au même moment, à des dizaines de kilomètres de là, le roi Léon était au bout de son balcon. C'était la consternation. La source ne débordait plus. C'était rendu qu'elle giclait de joie dans les airs comme un véritable geyser. Il y avait tellement d'humidité dans l'air que les cheveux des femmes avaient commencé à refriser comme dans l'ancien temps. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu le phénomène. Les fidèles rasaient les remparts. La place royale était complètement déserte. Il faisait chaud, mais chaud. La seule nouvelle fraîche qui est arrivée aux oreilles du roi Léon, c'était que la garde éloignée se rapprochait. Léon, accompagné de son conseiller, écoutait le récit rapporté par sa garde personnelle. « Messire! Pas la maison, la messire! Pas la maison, la messire! Pas la maison! « Pardon, il y a une sorcière dans mon royaume, conseiller. Qu'on aille la chercher. Je veux qu'elle soit léophilisée, écartelée, égrenée, répandue aux quatre coins de mon royaume et au-delà du désert. Je veux que cette fille soit morte. Je veux qu'on la colmate. » « Calmez-vous, messire. Je comprends votre colère. Modérez vos transports. Non, moi, votre humble conseiller, je crois qu'il y a dans cette affaire quelque chose de mirobolant. Messire, songez-y un instant si cette fille trouve de l'eau en plein désert. Vous imaginez, c'est une mine d'or bleu à exploiter. Il faut l'avoir sous notre main. Il faut capitaliser, messire. Il faut qu'elle soit entre nous. Il faut avoir un entretien. » Et c'est comme ça qu'une grande chevauchée est partie aux quatre coins du désert à la recherche d'informations. On voulait savoir où les deux femmes avaient disparu. Pendant ce temps dans le désert, la potière avec sa fille, à l'ombre du grand arbre, voyait le ruisseau s'élargir comme une rivière. Les oiseaux, au loin, avaient deviné le retour de la vie dans le pays. Les plantes sortaient à travers le jaune et la sécheresse craquelée du désert. On voyait même des silhouettes se dessiner sur le haut des dunes. Des hommes qui avaient entendu flairer le miracle qui descendait dans le cuivre du soleil. La potière s'est levée, a laissé derrière sa fille pour aller à la rencontre de ces gens, les amener devant la beauté du monde qui était de retour au royaume. Mais à mi-chemin, la potière eut la frousse de sa vie. Elle a retourné, elle a commencé à dévaler les vallons, les mains dans les airs, et criait vers sa fille de s'échapper, de s'enfuir, de courir, de disparaître. Mais Marie-Onde a vu les trois étrangers rattraper sa mère, la rouler par terre, lui donner des coups de poing, la claquer au visage, lui donner des coups de genoux, la frapper à coups de pied. C'étaient les soldats du roi Léon qui avaient remonté la piste. Puis leurs fortes mains se sont refermées sur la belle Marionde. Elle a été mise dans un chariot. On a entendu le fouet claquer. Les 6 chevaux ont repris leur marche. Et c'est comme ça qu'elle a été traduite dans la salle royale. Quand le roi Léon vit les yeux bleus, bleus comme la mer, son âme eut un frisson, un nœud dans ses veines. La peur a commencé à tisser les cloches et la gangrène. Et il a dit: « Conseiller, qu'on le mette avec les autres, au cachot! »